Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h57, nous sommes le jeudi 13 décembre 2018, vous écoutez... Vous êtes parti pour 2 heures d'infos rigoureuses, mais néanmoins copieusement assaisonnées d'allégresse. Par les temps qui courent, il faut se remonter le moral. Ça sera chose faite grâce évidemment à mes deux consoeurs du petit matin, Eva Roque et Céline Dacosta. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Monsieur.
Mais notre inaltérable allégresse, il est temps de rendre à César ce qui appartient à Bordenave. On la doit également au producteur exécutif de cette émission, Sébastien Bordenave, l'udion malicieux qui passe ses journées à traquer pour moi les musiques les plus improbables sur le net, et même parfois comme hier, le Darknet. Ainsi, vers 17h04, après avoir éructé d'un rire diabolique, il me faisait écouter ceci. Et alors que je lui demandais « Mais où as-tu trouvé ça, vieux sacripant ?», il me répondait presque sur le ton de l'évidence, et c'est ça qui est le plus flippant. « Mais enfin, c'est la BO de Vampiros Lesbos !» Voilà un portrait concis, mais je crois parlant, de Sébastien Bordenave, bourreau de travail, qui hier, sur les coups de 18h, sa tâche accomplie, s'est offert quelques minutes de répit bien méritées.
Mais non.
Et c'est pas un son d'illustration, je précise. Hein. C'est le vrai. Pour tout ce que tu fais quotidiennement pour nous, mon bon Bordenave, je dis bravo. Eva, quelle question avez-vous choisi de poser à nos éditeurs ce matin?
Une question de Sébastien Bordenave.
Il fait tout, ouais. Nous ne sommes que des marionnettes.
Exactement.
Entre ses mains.
Le 13 décembre 1920, naissait la société Haribo. Alors, quel est votre bonbon préféré, celui pour lequel vous craquez, celui qui a marqué votre enfance? Je ne vous dis pas le nombre de réponses qu'on a déjà reçues.
Ah oui, déjà
ouais, exactement.
Mais vous n'avez pas posé la question?
Mais si, j'avais posé la question sur Twitter.
Ah
sur
oui,
Twitter,
d'accord,
avec
vous
hashtag
d'accord.
Je vais vous expliquer comment ça fonctionne Twitter.
Oui, c'est pas un jour, vous m'expliquerez. À l'horizon 2020. Céline, quel temps fera-t-il en France aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il fait très froid, si je m'en fie à mes sensations.
Une météo de Sébastien Bordenave aussi.
Oui, oui, il est météorologue.
C'est une journée pluvieuse pour l'ouest et le sud du pays cet après-midi. Et puis ça va être assez lumineux pour le reste, à part quelques grisailles parfois givrantes sur le nord-est ce matin.
En revanche, je crois qu'il fait 15 degrés
il
à Lesbos.
Oui.
Ah, ça, c'est une information de Sébastien Bordenave. Merci Céline. Afin de se mettre en train, justement, un petit coup de Vampiros Lesbos me paraît tout indiqué. Debout les coquines, c'est parti.
Et nous sommes le jeudi 13 décembre, je m'en doute. Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 5h, bon réveil. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce jeudi 13 décembre, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Plus de 700 membres des forces de l'ordre traquent toujours l'assaillant présumé de Strasbourg. Il reste introuvable. La police nationale lance un appel à témoins. La traque, mais aussi le choc, la ville a rendu hommage hier soir aux victimes. Deux personnes décédées, une troisième dans un état de mort cérébrale et plusieurs blessés. Dans ce journal, reportage auprès des familles et au chevet de leurs proches hospitalisés. Et dans ce contexte, que vont décider les gilets jaunes? Se rassembler ou pas samedi? Avis contrasté, l'exécutif appelle à ne pas manifester. 33 heures désormais que les forces de l'ordre sont à la recherche de l'ennemi public numéro 1 dont on connaît désormais le nom, le visage. Shérif Chekat, 29 ans, fiché S, auteur présumé de l'attaque à Strasbourg avant-hier soir. La police nationale a diffusé hier sa photo, appel à témoins. 1m80, peau mate, corpulence normale, une marque sur le front. Homme armé et dangereux, toute personne en possession d'informations doit composer le 197. Sur le terrain, 720 hommes traquent l'assaillant présumé après que les policiers ont perdu sa trace dans le quartier de Neudorf au sud de Strasbourg, le quartier de son enfance qu'il connaît comme sa poche. Le bilan provisoire ce matin, 2 personnes décédées, un père de famille strasbourgeois et un touriste thaïlandais. Un troisième homme, un garagiste d'origine afghane, est en état de mort cérébrale. Plusieurs personnes restent hospitalisées dans un état grave, la plupart au CHU de Haute-Pierre, où les familles vivent des heures angoissantes. Pierre Herbulot.
Des pleurs et des sanglots dans le hall de l'hôpital. Deux femmes se prennent dans les bras. Elles viennent d'apprendre qu'un de leurs amis, un journaliste italien, est hospitalisé dans un état critique. Puis ces dizaines de Strasbourgeois de la communauté afghane qui arrivent ensemble depuis le tramway. Kamal, un de leurs amis, a reçu une balle dans la tête. Il est dans un état de mort cérébrale. Omar, un cousin, vient lui rendre visite.
Il n'y a pas pire que ça dans la vie, de perdre quelqu'un de proche. Qu'est-ce qu'il avait fait, lui? Rien du tout. Bon, en fait, lui, il était sorti avec sa femme pour faire des achats et faire des courses, voyez, pour le Noël. Et voilà, il a perdu sa vie.
Il y a cette fille de 18 ans touchée au bras, rejointe par sa mère. Il y a ce médecin, chef de service, qui dit n'avoir jamais vu autant de blessés par balle de toute sa carrière. Il y a la ministre de la Santé qui vient soutenir tout le monde. Et enfin, il y a toujours ces crises de larmes qui résonnent à l'accueil. Strasbourg, Pierre Arbulot, Europe 1.
Et du côté de l'enquête, les officiers sont passés à une seconde phase. Ils se concentrent sur l'entourage du meurtrier présumé. Ses parents ainsi que deux de ses frères sont en garde à vue. Ils étudient aussi la téléphonie, la balistique et notamment comment il s'est procuré l'arme de poing dont il a mortellement fait usage. Hier soir, Strasbourg a pleuré ses morts. Cérémonies œcuméniques dans le centre-ville. Le marché de Noël, encore aujourd'hui, restera fermé.
Et ce sont, Jérôme, en quelque sorte, deux actualités qui se télescopent. Les Gilets jaunes s'interrogent sur la suite à donner à leur mouvement.
27e jour de contestation et cette question qui fait débat. Faut-il se rassembler samedi? L'exécutif appelle à ne pas manifester. Mais c'est oui pour certains Gilets jaunes à la détermination intacte. D'autres sont favorables au moins à une suspension du mouvement. Illustration des désaccords dans cette famille de Chartres qu'a rencontré Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1.
Arrêter ou poursuivre le mouvement dans cette famille de gilets jaunes de Chartres, la question fait débat. Patricia, la maman, fonctionnaire de 57 ans, est venue manifester sur les Champs-Élysées samedi dernier. Pour elle, il est temps de faire une pause dans la mobilisation.
Pour le moment, on est en deuil avec ce qui s'est passé à Strasbourg, où malheureusement j'avais ma fille et mon gendre et j'ai eu la peur de ma vie. Et je me dis que la correction et la solidarité doivent jouer. Dans ces cas-là, il vaut mieux attendre quelques jours et là, on pourra reprendre le mouvement.
Sa fille, Laura, a vécu l'attaque du marché de Noël de Strasbourg confinée dans un restaurant. Avec son compagnon, ils ont décidé d'écourter leur séjour en Alsace, mais ils restent très mobilisés.
Les gens ont le droit de faire leur deuil. Ce qui a pu se passer, c'est quand même atroce. On prend le temps de pleurer les personnes, mais je pense qu'il faut en effet rien lâcher, puis c'est encore nécessaire. Même après tout ce que M. Macron a pu nous dire à la télé, là, je pense qu'il faut quand même continuer le mouvement.
Même si elle soutient les Gilets jaunes, Laura n'ira pas manifester, contrairement à son compagnon Thomas, qui a déjà l'intention de retourner à Paris samedi prochain.
Reportage Jean-Gabriel Bourgeois. Et noté que l'exécutif a retenu hier 5 grands thèmes pour le futur grand débat annoncé par Emmanuel Macron. L'immigration, la transition écologique, la fiscalité, les services publics et l'évolution du débat démocratique. Le chef de l'État qui réunissait hier une centaine de chefs d'entreprise pour les inciter à aider le pouvoir d'achat. Pas de mesures contraignantes, mais information Europe 1, la baisse de l'impôt sur les sociétés prévue l'année prochaine pourrait être reportée d'un an. Une économie de 2,5 milliards d'euros pour l'État.
Au Royaume-Uni, Theresa May est sauvée, du moins pour l'instant.
La première ministre a réchappé hier à un vote de défiance des députés de son propre camp, hostile à son accord de Brexit. Plus d'un tiers des parlementaires conservateurs se sont prononcés contre elle lors de ce scrutin. Elle doit renégocier l'accord avec Bruxelles, ce que pour l'heure les Européens refusent. Qui plus est, l'idée en Grande-Bretagne d'un nouveau référendum sur le Brexit fait son chemin. Et puis ce chiffre, pour finir, 9 milliards de dollars, au moins 9 milliards. C'est la très lourde facture, selon les assureurs, des dégâts qu'ont entraîné les 3 incendies ravageurs en Californie le mois dernier.
J'ai cru que c'était ce qu'avaient gagné les religieuses.
Non, plus de 100 000 hectares touchés.
Vous nous parliez hier.
Oui, absolument. Mais là, non, c'est un autre chiffre. Une facture qui pourrait s'alourdir encore au fur et à mesure des nouvelles demandes d'indemnisation.
Voici pour l'essentiel de l'actualité. Maintenant, Eva, si je vous dis qu'on va passer au résultat des championnats du monde de hockey sur gazon, vous me dites ?
Ça donne envie.
Oui, en fait, au moins semblant. Voici le journal des sports.
Ils ont perdu les Français chez nous. 1-0.
Ah mince.
Et en quart de finale contre les Australiens. Savez-vous que le nouveau chef des sports, Jean-François Pérez, est très à cheval sur cette question.
Sur le hockey sur gazon ?
Absolument, il faut en parler.
Mais je trouve qu'il a bien raison.
Un avis que je partage.
Moi, je suis toujours d'accord avec les chefs. À la une, Jérôme.
Je l'ai appris après en avoir parlé moi-même.
Il est souvent d'accord avec lui-même, c'est pour ça.
À la une, je vous en prie, Eva. Eux aussi dans le gratin du foot européen.
Eux aussi participeront en février et mars prochain.
C'est la liaison.
Au 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais oui, 2 clubs français, puisque le PSG s'est qualifié avant-hier soir. Et hier soir, sous la neige ukrainienne pour le dernier match du premier tour, les Rodaniens sont allés chercher le petit point qui leur manquait à Kiev. 1-1 face à Donetsk. Mené et éliminé à la mi-temps, c'est le champion du monde, Nabil Fekir, qui a égalisé donc pour les Lyonnais à la 65e minute. Bruno Genesio, l'entraîneur, la tête haute.
Un mélange de joie, de fierté, aussi de soulagement, parce qu'on a souffert encore les 5 dernières minutes. Voilà, donc, mais d'abord la fierté de diriger une équipe qui est capable de se hisser au niveau des meilleurs.
Des propos recueillis par Simon Rubin, les Lyonnais finissent invaincus, mais deuxième de leur groupe de qualification derrière Manchester City. 7 ans que les Rodaniens n'avaient plus connu les 8e de finale de la Ligue des Champions.
L'adversaire sera connu lundi, tirage au sort.
Oui, alors ce sera soit du très lourd, Real Madrid, Barcelone, Juventus Turin, Bayern Munich, soit seulement du lourd, FC Porto, Borussia Dortmund. Voilà, alors le PSG connaîtra aussi son sort, Atlético de Madrid ou Manchester United pour le plus compliqué. À noter hier soir... Oui, voilà, non, mais ce sera, là, c'est vraiment pour le plus compliqué. À noter hier soir la plus lourde défaite européenne à domicile de l'histoire du Real Madrid. 3-0 face au CSKA à Moscou, sans conséquence, puisque de toute façon, avant le coup d'envoi, le Real était qualifié et Moscou éliminé.
Le handball, Jérôme, et les Bleus tiennent leur demi-finale.
Elles sont en demi-finale de l'Euro en France. Rendez-vous demain, 21h, France-Pays-Bas. Ce sera à Paris, à Bercy. Une place dans le dernier carré obtenue hier soir à Nantes via une victoire 38-28 sur les Serbes. C'était le dernier match des phases de groupe. Écoutez, Estelle Nzeminko, meilleure marqueuse hier, 9 buts, elle résume bien la situation.
4 équipes, 3 médailles et puis grosse ambiance. Donc voilà, vraiment un joli match pour être dans l'ambiance et dans une bonne énergie pour aller jouer la demi, quoi.
Des propos recueillis par Christophe Lamarre.
On termine, Jérôme, par un bien triste chiffre du jour.
Ah oui, 19, terrible nouvelle que l'on a appris hier soir, le décès à 19 ans à peine de Nicolas Chauvin, tout jeune espoir du Stade Français Rugby, décédé hier soir au CHU de Bordeaux après avoir subi dimanche en match un lourd plaquage, un violent plaquage qui a entraîné un traumatisme cervical et un arrêt cardiaque.
On a une pensée pour tous ses proches ce matin. Jérôme, le hockey sur gazon, c'est votre nouvelle passion, vous ne nous en avez pas dit un mot, c'est quand même scandaleux.
Si, mais voilà, je vous le disais, défaite,
mais
pardon,
qui est qualifié? Il n'y a pas que les Bleus, il n'y a pas l'équipe de France.
Les Australiens.
Les Australiens. Voilà. Vous avez l'air de douter.
Contre nous.
Vous avez l'air de douter. Est-il sûr de lui?
Ils nous ont battus. Ils sont double champions du monde. Et ils sont en demi-finale.
Bon, c'est logique finalement.
Ah oui, ah oui, c'était déjà un très beau parcours des Bleus.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Céline pour Jérôme, hipipip.
Wouchou.
Oui. On restera demain.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, quand votre vie ne vous convient plus, avoir le courage d'en changer, tout recommencer. Un fantasme pour beaucoup, une réalité pour certains. À 5h10 chaque matin dans Fallait Oser, on vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont eu le cran de se réinventer. Aujourd'hui, nous rencontrerons Perrine Hervé-Gruyer. Elle était juriste en droit international, elle est désormais maraîchère bio et ça marche pas mal puisque sa ferme est carrément devenue une référence mondiale en matière de permaculture. Mais juste avant, l'heure est venue de faire un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Une journée pluvieuse sur l'ouest et le sud du pays.
Exactement. Hein. Sur la façade atlantique ce matin, ces averses gagneront ensuite tout le sud-ouest et puis des Pyrénées aux Alpes jusqu'en Corse. Ailleurs, le ciel sera plus lumineux, partagé entre nuages éclaircis, de la grisaille encore dans le nord-est ce matin et des brouillards givrants. Prudence donc sur les routes. Côté température, c'est froid avec de nombreuses gelées ce matin sur la moitié nord et une moyenne de moins 3 à 5 degrés. De 5 à 10, ça c'est pour la moitié sud. Et cet après-midi, la minimale sera pour Nancy. 1 degré, il en fera 2 à Paris, 4 à Nantes et Grenoble, 5 à Clermont-Ferrand et de 8 à 14 pour la moitié sud.
Merci Céline. Eva.
Question de Sébastien Bordonave, notre producteur ce matin, à tous les auditeurs. Le 13 décembre 1920 naissait la société Haribo. Alors pour vous, pour quel bonbon craquez-vous? Quel est celui qui a marqué votre enfance? Je ne résiste pas au plaisir de vous lire le message de notre ami 2020. 1. Les bouteilles de coca sucrées Haribo. 2. L'hostie avec la poudre qui pique. 3. La fraise tagada qui fait la langue rouge. 4. Le vrai crocodile de chez Haribo, pas la copie dégueu. Et 5. Le doré rond du caramel dans la boîte de Quality Sweet. J'ai déjà envie de manger tout ça. Continuez à nous envoyer vos messages sur Europe 1, sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, de l'info, de la bonne humeur et de belles rencontres, comme chaque matin, 5h10 dans Fallait Oser, où l'on part à la rencontre de quelqu'un qui a osé changer de vie. Ce matin, Perrine Hervé-Gruyer, elle était juriste en droit international en Asie, elle est désormais maraîchère bio en Normandie. Et ça marche très fort puisque sa ferme du Bec-et-Loin est devenue une référence mondiale en matière de permaculture.
En réalité, mon métier de juriste me comblait au plan intellectuel. J'aimais beaucoup ce que je faisais dans des langues différentes, dans des cultures différentes. C'était tout à fait moi. Mais me lever chaque matin pour négocier des contrats de millions de dollars, je voyais pas bien le truc, quoi. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie ? Et puis, je suis rentrée en France pour réfléchir un petit peu. Le fait est que j'ai rencontré mon mari à ce moment-là. Et on a simplement commencé par faire le potager pour la famille. Et au bout de, quoi, à peine 2 ans, Charles m'a dit « Mais moi, j'aime tellement ça, j'ai envie d'en faire un métier. » Et on est parti comme ça, en bio, avec une méconnaissance, mais complètement irréaliste, hein, parce qu'on n'avait pas de formation, ni l'un ni l'autre, et on partait du principe que comme on savait faire notre petit potager, on allait pouvoir devenir maraîcher. Tu parles. Donc, ça a été difficile.
Perrine et Charles ont un peu galéré au début, mais ils ont ensuite réussi à obtenir des rendements incroyables dans leur petite ferme de Normandie. Aujourd'hui, ils sont des stars.
Effectivement, leur ferme du Bec-et-Loin est aujourd'hui une référence de la permaculture dans le monde entier. Alors, comment s'explique ce succès ? Eh bien, pour Perrine Hervé-Gruyer, c'est avant tout par l'audace.
Aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on se dit heureusement qu'on était ignare, heureusement qu'on était idéaliste. Et je crois que c'est ça qui nous a fait soulever des montagnes. Cette conviction-là a fait que chaque matin, même au plus difficile des moments, on a réussi à se lever et à se dire on va prouver que c'est possible de tout faire à la main, de faire une ferme avec très très peu de pétrole, de faire une ferme qui stocke du carbone, qui fait revenir la biodiversité, qui donne du plaisir aux gens, qui crée des emplois, qui crée de la beauté, qui crée du lien dans les territoires. Donc bien sûr, on n'avait pas tous ces vocables en tête à l'époque, mais ça faisait quand même partie du rêve, de l'idéal.
Et voilà, Perrine et Charles-Hervé Gruyer proposent désormais des formations pour tous ceux qui veulent améliorer leur potager bio. Eva, prenez-en de la graine, si j'ose dire.
Ah,
tous les renseignements se trouvent www.fermedubec.com. C'est aussi c'est Sébastien Bordenave, hein, je le précise quand c'est dans le sens aussi.
Et si vous aussi vous avez des témoignages de changement de vie à nous apporter, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux ou sur le site internet d'Europe 1.
Europe 1, il est 5h13, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, toute l'actu du matin, la joie de vivre en plus. L'émission qui vous donnera envie de claquer dans vos doigts en chantant.
Can you feel it?
Attention tout de même à ne pas trop claquer dans vos doigts, vous pourriez vous faire un panari, vous direz le docteur Ichou. Toujours aux petits soins avec vous, chers auditeurs. Marcel qui ce matin nous parlera des effets sur la santé du régime sans viande, un régime que n'est pas prête d'adopter Eva Rock, dite l'aspirateur à bidoche du 06, une viandarde comme on dit. Et ça se voit jusque dans son adresse, n'est-ce pas Céline?
La seule habitante de la rue de la saucisse à l'année.
On y vient. Mais d'abord un peu de saucisse j'allais dire, non, de musique, plus sensuel à cette heure-ci que la saucisse. Can't Stop Loving You, Phil Collins sur Europe 1. Can't Stop Loving You, et pourtant j'ai essayé Eva.
Il est 5h18. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
L'assaillant de Strasbourg est toujours introuvable. Au total, 720 membres des forces de l'ordre sont à ses trousses actuellement. Le bilan s'élève toujours ce matin à 2 victimes, une troisième personne dans un état de mort cérébrale et plusieurs personnes hospitalisées dans un état grave. Hier soir, Strasbourg a pleuré ses victimes. Plusieurs cérémonies œcuméniques se sont tenues en centre-ville. Aujourd'hui, le marché de Noël sera de nouveau fermé. Enfin, du côté de l'enquête, les officiers sont passés à une seconde phase. Ils se concentrent sur l'entourage du meurtrier présumé. Ses parents ainsi que deux frères sont en garde à vue.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 13 décembre. Mais une question vous taraude, chers auditeurs amateurs de sensations fortes.
Vous avez déjà fait de la crobranche ?
Non, Eva. Sur quel cheval miser à Chantilly cet après-midi ? Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu. Il y aura des courses cet après-midi à Chantilly et mon pari gagnant sera le 501 Crépuscule des Dieux. Modèle de courage et d'honnêteté, sa régularité mériterait bien d'être enfin récompensée par une victoire dans cette catégorie des quintés. Toujours à l'arrivée à ce niveau depuis le début de l'année, il va évoluer cet après-midi sur une piste en sable fibré qu'il apprécie, mais aussi sur sa distance de prédilection, 1500 mètres, deux paramètres qui doivent lui permettre de réaliser ce plus annonciateur d'une victoire très attendue par son entourage. Alors notez bien, pour Chantilly, réunion 1, dans la cinquième course, le numéro 1, Crépuscule des Dieux.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h19.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et l'heure est venue pour les membres de la coloc DLC d'oublier leur petite rancœur, leur picrocolline querelle pour se retrouver à la table du petit déjeuner. Moment toujours précieux où on se dit vraiment les choses, on débriefe tout, l'émission de la veille évidemment. Pris de remords, je demande souvent à mes collègues si je ne suis pas allé trop loin dans l'humour potache. Un expert des chevaux, il les connaît tous, il sait sur qui miser, chaque matin je lui confierai ma bourse.
Non mais il a pas dit ses bourses.
Oh, merci Céline. Voilà pour la dimension professionnelle de nos échanges. Après il y a évidemment une dimension plus personnelle, voire intime de nos discussions qui n'a pas à être étalée sur la place publique. Notamment quand par exemple Céline débriefe sa nuit avec Jérôme Lacroix.
J'ai l'impression qu'il rentre au premier coup et en fait non.
Non, il fallait pas diffuser, mais non. Encore pour moi, Céline, bref. Un peu de dignité, mes agneaux. Voici venir le pressing. Alors, il faut bien se détendre aujourd'hui, je vais vous dire. Hein. Vu les unes de vos quotidiens ce matin, évidemment, les amis, l'attaque de Strasbourg est largement évoquée par les journaux. Le Parisien titre « La traque ». Libération propose le récit de l'attentat qualifié de « nuit de terreur ». La Croix préfère « terrorisme, gardez les yeux ouverts ». Et vous, mes précieux limiers, qu'avez-vous déniché dans la presse du jour ? On commence par vous, Eva.
J'ai une très très bonne nouvelle ce matin. Le SMIC va augmenter de 22%.
Ah oui, mais pas, non, pas chez nous.
Ouais. Ah ouais. En Suisse.
En Espagne. En Espagne.
Mais il est combien?
Et alors, je vais vous expliquer tout ça. Libération revient sur cette mesure forte qui est prise par Pedro Sanchez, le chef socialiste du gouvernement. Cette décision sera annoncée par décret lors du Conseil des ministres le 21 décembre, soit la hausse la plus consistante depuis 1977. Et donc, un joli cadeau de Noël. Le SMIC passe ainsi de 858 à 1050 euros, soit 340 millions d'euros à débourser pour l'État. Une décision évidemment qui a été saluée, même par l'opposition. Pablo Iglesias, le chef de file de Podemos.
Et non pas Rouillot.
J'étais persuadée que vous allez le faire. Voilà. Podemos, écoutez bien, dont un des porte-parole est allé commenter sur un plateau télé cette mesure en faisant référence à la France, à, je cite, l'indifférence sociale de Macron, une des causes de l'explosion contestataire des Gilets jaunes, une rébellion que nous voulons éviter. Alors, je vais y arriver. Cette augmentation annoncée par Sanchez a évidemment une portée économique, mais surtout une visée politique, parce que le chef du gouvernement tente d'obtenir le soutien des partis indépendantistes catalans au sein de l'Assemblée pour notamment boucler le budget annuel. Et les partis catalans, en l'occurrence, ne sont pas contre ce budget, mais conditionnent leur vote à une revendication, la fameuse tenue d'un référendum d'autodétermination en Catalogne. Évidemment, le pouvoir socialiste ne peut pas accepter cette requête, et donc le blocage politique est total, précise Libération. Alors, en ce qui concerne l'augmentation du SMIC, ça va passer par décret, donc de toute façon ça sera appliqué, mais il y a un blocage sur le budget. Si en janvier Sanchez ne parvient pas à obtenir ce soutien politique, il sera obligé d'annoncer des élections générales anticipées, sans doute pour le mois de mai. Alors pour finir, est-ce que vous connaissez le montant du SMIC dans les pays européens? Alors en France notamment, il est de 1498 euros. Le plus bas d'après vous, dans quel pays?
Non, c'est en Bulgarie.
Bulgarie, 280 euros. Le plus haut, c'est au Luxembourg.
280 euros.
Oui, 280 euros. Au Luxembourg, c'est le plus haut, presque 2000 euros. Et en fait, il y a trois types de pays. C'est-à-dire que du côté de l'Europe de l'Est, ça se situe entre 400 et 500 euros. Pour le pourtour méditerranéen, entre 650 et 850 euros. Et pour les États du Nord, au-delà de 1400 euros. Et enfin, sur les 28 États membres, 6 n'ont pas de salaire minimum, notamment l'Italie, la Suède et la Finlande.
Je pensais même pas que c'était légal. Si on était dans l'Union européenne, je pensais qu'une des clauses d'adhésion à l'Union européenne, c'était d'avoir un salaire minimum.
Qui n'ont pas de SMIC, et notamment
l'Italie. Eva, vous m'avez appris quelque chose, et je vais vous dire, c'est pas tous les jours le cas. Alors, ça mérite au moins un bon point. Vous savez qu'en Suisse, on a envisagé un salaire minimum.
Oui, c'est pas passé, je crois,
c'est
par
pas
référendum.
Passé, mais on voulait le mettre autour de 3 000 euros.
Oui, mais après, le loyer, il faut au moins 3 000 euros pour payer un appartement.
C'est vrai. Céline Dacosta.
Alors, moi, j'avais envie de dire que l'ambiance actuelle n'est pas forcément la fête et à la consommation plaisir. Certes. Mais on va quand même, je pense, tout faire pour gâter les enfants à Noël. Alors, je vous parle d'un article dans Aujourd'hui en France sur les jouets pour Noël et surtout de leur prix ou comment faire de bonnes affaires. Hein. Qui vend les jouets les moins chers? C'est une étude qui peut vous intéresser si vos achats de Noël ne sont pas bouclés. Même si, franchement, à 12 jours de Noël, vous êtes mal barré pour trouver les jouets stars qui sont souvent en rupture de stock.
Oui, c'est clair.
Je vois votre tête, c'est pas fini.
C'est cette histoire, Céline, mais je vais tout trouver.
Alors, cette étude a été faite par le cabinet de stratégie, je ne sais pas s'il faut le dire en français ou en anglais, comme je suis née en anglais, je vais dire en français, Simon Kucher & Partners.
C'est bien, vous en êtes pas mal sorti.
Qui a relevé depuis fin septembre le prix de 32 produits d'univers différents, comme les Lego, les Playmobil, les poupées, vendus aussi bien dans les boutiques spécialisées comme la Grande Récré, Toys R Us ou Oxibul, que dans la grande distribution ou les sites de e-commerce comme Amazon, Rue du Commerce ou Cdiscount. Et d'après vous, où fait-on les meilleures affaires?
J'aurais tendance à dire sur Internet, mais est-ce que c'est pas un piège?
Mais c'est forcément sur Internet, parce qu'il y a des ventes privées.
C'est l'une des surprises de l'étude, c'est la grande distribution qui est plus attractive. La palme revient même à Leclerc avec les prix les plus intéressants, notamment pour les Lego et les Playmobil qui là sont victimes de leur succès avec des ruptures de stock un peu partout. Pour les magasins spécialisés, c'est Toys R Us le moins cher, et si on prend les jouets stars de l'année comme le pistolet Nerf que vous connaissez peut-être
avec des petites balles en mousse.
Et si on prend donc les jouets stars de l'année, pistolet Nerf ou la maison aux trois histoires, ça je connais pas, c'est Amazon qui propose les tarifs les plus bas. À la question faut-il acheter les jouets à l'avance, on a bien compris que c'était pas le cas pour vous Mathieu. On nous répond pas forcément. Dans la grande distribution, les prix baissent de 2% depuis septembre, mais pour les autres, on joue beaucoup avec les prix qui peuvent monter ou baisser en fonction de la concurrence, parfois même d'une heure à l'autre. Par contre, pour avoir un très large choix, c'est vrai que les sites de e-commerce sont mieux fournis. Amazon a plus de 250 000 références contre 10 à 15 000 seulement pour les enseignes spécialisées. Après, le souci, quand on a trop de choix, c'est qu'on on peut être un petit peu perdu. C'est un article à lire dans Aujourd'hui en France.
Donc vous n'avez pas fait vos cadeaux
Mais je vous en prie, mais d'ailleurs c'est le Père Noël qui fait les cadeaux. Le Père Noël, la liste est envoyée au Père Noël et je suis sûr qu'il va se débrouiller pour faire tous les cadeaux en temps et en heure. Comme chaque année. Jérôme Lacroix, qu'avez-vous choisi pour nous
Mathieu,
dans la presse?
Mettons-nous autour d'une table, sortons un jeu de cartes.
Oula, bon, oh là là là. Pourquoi autour d'une table, vous faites quoi, oui. vous
Non, 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 mais avec manger, Jérôme, on ne sait jamais. Cartes. J'ai passé un week-end avec lui, je vous rappelle. On n'a pas fait que jouer au jeu de société.
Sortons
bon, alors, Jérôme.
Un jeu de cartes et apprenons les maths. C'est le thème de l'un des papiers du Parisien ce matin. Oui. Le titre de cet article, le bridge pour devenir un as des maths. Le journaliste Romain Baeud nous apprendre, figurez-vous, que plus d'un millier de profs de maths ont appris, alors lui il dit à enseigner, je préfère dire à perfectionner leur enseignement à l'aide de ce jeu de cartes bien connu et enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer au bridge, c'est quand même relativement compliqué. Alors,
c'est un sport olympique,
c'est un sport.
En tout cas, c'est considéré comme un sport.
Ah oui, puisqu'il y a des clubs, etc. Mm-hmm. Oui, alors, cet enseignement s'est rendu possible grâce à un accord signé il y a 6 ans entre l'Éducation nationale et la Fédération française de bridge, ce qui fait qu'il y a des profs de maths qui peuvent aller dans les clubs pour perfectionner leur enseignement. Pourquoi ? Parce que quand on joue au bridge, nous raconte l'article, on fait des maths sans s'en rendre compte. Il faut compter le nombre de mains qui reste à prendre, hein, puisque c'est ça aussi le but du jeu. Les probabilités pour savoir ce que les joueurs peuvent annoncer, puisque quand on joue au bridge, je ne vais pas m'étaler sur la règle parce que c'est vraiment compliqué, il y a une première phase d'enchère. En fait, ça correspond à l'apprentissage des probabilités, des statistiques, mais aussi, on fait aussi du calcul mental. Alors après ces sessions, qu'est-ce qu'ils en font les profs ? Certains ont joué en classe avec leurs élèves au bridge. William Abdelhamid enseigne en lycée professionnel en Seine-Saint-Denis et elle se félicite d'être parvenue à faire venir ses élèves à 8h du matin pour jouer aux cartes en classe sur fond de mathématiques. Alors justement, les élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Notamment de l'image de ce jeu qui est un petit peu vieillotte. Hein. On a un peu l'image des papis et des mamies qui jouent au bridge dans leur club. Ils ne peuvent pas trouver ça ringard, dit un prof. Parce qu'ils connaissent même pas, en fait.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, le Parisien nous apprend par ailleurs dans cet article qu'une version junior d'un jeu de bridge à destination des CP-CE1 existe et est disponible à la vente sur le site de la Fédération française donc de bridge. Il attend ce jeu un éventuel feu vert de l'Éducation nationale pour, pourquoi pas, débouler dans les salles de classe.
Ça marche avec le strip poker ou pas ?
J'étais sûr.
Moi, je me mets au bridge tout de suite.
Oui, vous avez choisi le bon. Merci Jérôme, merci à tous. Notre séquence du pressing s'achève. Alors peut-être Céline de répondre enfin à cette question que se posent vos fans. Il vaut quoi Jérôme Lacroix en vrai ?
Non mais par rapport à d'autres, il le fait quand même plutôt pas mal.
Ah, voilà enfin une réponse qui a le mérite de l'honnêteté.
Europe 1.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Et surtout, de quoi parliez-vous ? Parfois je reprends des sons, je ne sais pas ce que vous disiez. Debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zeleny à suivre. Goulayant réveil à l'écoute d'Europe.
Il est 5h29, Mathieu Noël.
Céline, l'heure de faire un point sur la météo avec vous. La météo de ce 13 décembre, une journée assez lumineuse sur le nord.
Oui, et la pointe nord aussi avec des éclaircies déjà ce matin. Pour le nord-est, on aura quand même pas mal de grisailles. Attention également au brouillard givrant. La grisaille, elle restera un petit peu présente localement cet après-midi entre la Picardie et le Grand Est, mais les éclaircies perceront aussi et seront d'ailleurs largement présentes de la Normandie à la Franche-Comté ce matin comme cet après-midi. Pour l'ouest, c'est un autre scénario pluvieux avec déjà ce matin de faibles averses sur la façade atlantique. Elles s'étendront à tout le sud-ouest cet après-midi jusqu'au massif central et près de la Méditerranée avec un petit peu de vent sur les côtes. Il neige également sur le massif central et les Pyrénées.
Un mot des températures.
Qui reste froide, hein, ça va se radoucir ce week-end. En attendant, ce matin, la moyenne va de moins 3 à 5 degrés, 5 à 10 pour la moitié sud. Cet après-midi, elle ira de 2 à 6 degrés pour la moitié nord et de 5 à 14 pour la moitié sud.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h. Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de bonne humeur et de sympathiques vacheries, notamment entre Eva Rock et Céline Dacosta. Céline, que notre chroniqueur innovation Grégoire Martinez trouvait hier très en beauté. En revanche, comme il n'a eu aucun mot pour dire comment il trouvait Eva, cette dernière n'a pu s'empêcher de lâcher une petite pique.
C'est vrai que t'es rayonnante ce matin.
Ah oui ?
Tant pis pour les autres jours.
Quelle belle ambiance entre vous les filles.
Non, mais
à suivre, jeudi les bons tuyaux, nos coups de cœur culture et nouvelles technologies. On verra notamment ce que vaut le nouvel assistant intelligent d'Orange baptisé Jingo. Sans oublier notre page santé, quel est l'impact réel sur la santé des régimes sans viande ? Y a-t-il des contre-indications en fonction de l'âge, des pathologies ? Le docteur Ichou nous répond.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Il est 5h30. 7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce jeudi 13 décembre 2018. Bonjour Hélène Zeleny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
La traque pour tenter de retrouver l'homme le plus recherché de France, le tireur du marché de Noël de Strasbourg. La police a lancé un appel à témoins précisant qu'il est dangereux et qu'il ne faut surtout pas intervenir soi-même. Les gilets jaunes divisés après l'attentat de Strasbourg. Certains veulent continuer leurs actions, d'autres appellent à une trêve face au risque terroriste. Et puis Theresa May remporte le vote de défiance au sein de son parti. La première ministre britannique annonce déjà qu'elle quittera ses fonctions avant les prochaines législatives de 2022.
Europe 1.
On connaît désormais son nom et son visage, mais il reste introuvable. Shérif Shekat, 29 ans, c'est l'homme qui a tué deux personnes avant-hier soir sur le marché de Noël de Strasbourg. Une troisième victime est en état de mort cérébrale. 12 autres ont été blessés. Fiché S pour radicalisation. Avec son actif, pas moins de 27 condamnations. Il est recherché par plus de 700 membres des forces de l'ordre. Signe de la difficulté de cette traque, la police nationale a lancé un appel à témoins. Les enquêteurs se posent toujours énormément de questions, Pierre de Cossette.
Il s'est volatilisé après un échange de coups de feu avec des motards de la police dans le quartier du Neudorf au sud de Strasbourg. Le suspect venait de s'y faire déposer en taxi après avoir semé la terreur dans le centre-ville. Les recherches intensives des premières heures n'ont rien donné. Les fouilles d'appartements et de pavillons, pas plus que les inspections des coffres de voitures, n'ont été concluantes. Shérif Shekat est-il parti en Allemagne? Lui qui ne parle pas allemand, a-t-il pu bénéficier de complicité pour disparaître? Un autre chauffeur, par exemple. Les enquêteurs sont passés à une seconde phase, le travail sur l'entourage du suspect avec ses parents et deux frères en garde à vue, la téléphonie, la balistique, comment s'est-il procuré son arme? A priori un revolver modèle 1892, calibre assez rare, 8 mm, qui a servi à l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Un travail de fourmi, mais dans l'urgence, pour localiser le suspect, fiché S depuis 2 ans, mais qui il y a 10 ans déjà avait avec lui en prison une photo de Ben Laden, un homme qui de toute évidence n'avait pas envie de mourir avant-hier soir, mais dont l'antiterrorisme veut éviter à tout prix qu'il puisse repasser à l'action.
Pierre de Cossette, et l'appel à témoins publié hier soir prévient, attention, individu dangereux, surtout n'intervenez pas vous-même. L'homme mesure 1m80, a la peau mate et porte une marque sur le front. Toute personne en possession d'informations permettant de le localiser est appelée à composer le 197.
Et pour évoquer justement le profil du tueur, je recevrai à 6h15 Farhad Khosrokavar, sociologue spécialiste des prisons et de la radicalisation.
Le marché de Noël de Strasbourg, où se pressent 2 millions de touristes chaque année, va rester fermé aujourd'hui. En revanche, les équipements culturels et sportifs de la ville vont rouvrir. La cathédrale accueillera à 18h un temps de prière œcuménique.
Europe 1, il est 5h33.
Cette question, forcément Hélène, l'attentat de Strasbourg aura-t-il un impact sur la mobilisation des Gilets jaunes?
Oui, une question qui se pose ce matin plus que jamais. Des doutes, évidemment, sur une nouvelle manifestation parisienne samedi. Sur la plupart des groupes Facebook, les Gilets jaunes restent déterminés à faire entendre leur colère, en dépit des appels du gouvernement à la responsabilité. Certains demandent tout de même un temps de respect et de décence pour les victimes. Hier, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée une centaine de chefs d'entreprise pour les mobiliser en faveur du pouvoir d'achat. Pas de mesures contraignantes, mais selon les informations d'Europe 1, la baisse de l'impôt sur les sociétés pourrait être reportée d'un an, ce qui permettrait d'économiser 2,5 milliards d'euros.
Theresa May est sauvée, en tout cas pour l'instant.
Oui, la première ministre était sous le coup d'un vote de défiance des députés de son propre camp. Hier soir, finalement, ils acceptent de lui renouveler leur confiance, mais 117 ont tout de même voté pour la faire tomber. Theresa May se retrouve donc affaiblie, justement au moment d'aller discuter du Brexit à Bruxelles aujourd'hui. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres, Sébastien Krebs.
Theresa May garde donc la confiance de ses députés. Voilà le résultat salué par des applaudissements. Mais en réalité, c'est un retour à la case départ. Cela ne règle rien. D'abord parce qu'ils sont plus d'un tiers dans son propre camp à avoir voté pour la renverser, c'est beaucoup. Ensuite, parce qu'on ne voit toujours pas de scénario de sortie de crise. La première ministre n'aura sans doute jamais de majorité pour faire voter l'accord sur le Brexit en l'état. Et les Européens répètent qu'il n'y a rien à renégocier. Même si devant Downing Street hier soir, Theresa May tentait de jouer l'optimisme.
J'ai entendu ce qu'ont dit les députés à propos de l'Irlande du Nord. Et je vais chercher au Conseil européen des assurances qui lèveront les inquiétudes.
De toute façon, c'est moi ou le chaos, répétera-t-elle probablement encore aujourd'hui à Bruxelles pour tenter d'arracher quelques ajustements. Mais elle arrive forcément affaiblie. Si les conservateurs ne pourront plus réitérer ce type de vote de confiance pendant un an, l'opposition travailliste, elle, réfléchit toujours à une motion de censure. Londres, Sébastien Krebs, Europe 1.
Et puis c'est aujourd'hui qu'on saura si le cannabis thérapeutique est autorisé en France, comme c'est déjà le cas dans une vingtaine de pays européens. Europe 1 vous révèle que le comité scientifique va rendre un avis positif, mais pas question de légaliser les joints. Ce sera plutôt sous forme de gélules ou de tisane.
Ah, voilà qui est raisonnable. Merci, c'était le journal d'Hélène Zeleny. Rescapé de ce syndrome qui frappe trop souvent les journalistes expérimentés, syndrome dit de la grosse tête. Hélène, elle, a su rester humble. Elle s'est fixé une règle, ne jamais en faire trop, d'où son surnom, la Evita du News.
Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous.
Lui aussi, son seul souci, c'est nous. Enfin, surtout Céline Dacosta. Voici Jérôme Lacroix pour le Journal des Sports. À la une,
je pense qu'ils sont mariés tous les deux.
C'est vrai qu'ils sont mariés tous les deux, mais pas ensemble.
Voilà,
pas ensemble.
Oui, ensemble.
C'est un fou dans cette histoire.
Qui est marié?
Ah non, vous n'êtes pas marié.
Qui est marié? Si, je suis marié.
À la une, Jérôme, du journal des sports. Les Bleus du handball volent vers Paris.
Les filles de l'équipe de France sont presque là où elles voulaient être, en demi-finale de leur Euro, leur championnat d'Europe qui se tient en France depuis deux semaines. Qualification obtenue hier soir à Nantes en dernier match des phases de groupe 38-28 face aux Serbes. Direction maintenant Paris, Paris-Bercy pour une demi-finale. Donc demain face aux Néerlandaises, ce sera celle-là même à quelques exceptions près que les tricolores avaient battu d'un point en demi-finale du dernier tournoi olympique il y a deux ans. Demi-finale c'est bien, mais les Bleus sont championnes du monde en titre. Elles visent le titre européen, ce qui serait leur premier. Le sprint final est lancé, s'emballe la joueuse Béatrice Edwige euphorique.
Oui, ça y est, en demi-finale de notre Euro. Je serais contente pour nos familles. Il ne faut pas les oublier dans des moments comme ça. Ça fait plus d'un mois qu'on est partis. Et je suis très, très heureuse ce soir. Je suis contente. J'ai l'impression que c'est la toute première pierre à l'édifice. Et je vous ai trouvé belle, je vous ai trouvé radieuse ce soir. Et c'est une super victoire et je suis très heureuse pour nous.
Des propos recueillis par Christophe Lamarre, France-Pays-Bas donc à Bercy pour une place en finale de l'Euro de handball demain 21h. La seconde demi-finale opposera demain également les Russes aux Roumaines.
Le foot, Jérôme, et deux clubs français en huitième de finale de la Ligue des Champions.
Les Lyonnais rejoignent les Parisiens. Les héros d'Agnan ont obtenu hier en Ukraine un résultat nul qui les qualifie un partout contre Donetsk. Nabil Fekir a égalisé pour Lyon. Et ensuite, pour une fois dans ce premier tour, les Lyonnais n'ont pas encaissé de but dans les ultimes instants et ils finissent la première phase invaincus. En six rencontres, le défenseur belge Jason Denayé.
Dans les phases de poule, on le méritait. On a fait beaucoup de bons matchs où, certes, on a été repris au score. C'est pas qu'on aime souffrir, mais après, la plupart des matchs se déroulent comme ça. Si vous pouvez changer les choses, on l'aurait fait, c'est sûr.
Des propos recueillis par Julien Froment, tirage au sort des huitièmes de finale lundi. On a appris hier soir la terrible nouvelle, Nicolas Chauvin, espoir du Stade français rugby, est décédé hier soir au CHU de Bordeaux suite dimanche à un violent plaquage subi en match qui a entraîné un traumatisme cervical et un arrêt cardiaque.
Enfin Jérôme, qui a eu l'honneur d'être choisi par vous comme la personnalité du jour?
Du jour ou des tout prochains jours, en fait en tennis, selon le journal L'Équipe.
On sent bien qu'il n'y avait pas d'actu aujourd'hui, elle est heureuse des tout prochains jours.
Info.
L'homme du jour de mardi en 8.
Info que je crédite, selon le journal. Vous n'avez qu'à dire au mec de L'Équipe de mieux bosser, ils ne disent pas quand est-ce que ce sera bon. Alors.
J'aime quand vous montez sur vos grands chevaux, Jérôme Lacroix.
Non, je cite L'Équipe, c'est une info de L'Équipe. L'ancien joueur Sébastien Grosjean devrait très très certainement être nommé capitaine de l'équipe de France suite au renoncement d'Amélie Mauresmo. Alors, ça valait le coup.
Ah, effectivement, ça pour valoir le coup, ça valait le coup.
Pour une fausse Coupe Davis.
Oui, il inaugurera le.
Arrêtez ces éditos comme ça impromptus. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Jérôme, plus qu'un collègue, un ami qui peut compter sur nous et surtout sur Eva pour ne pas le dénoncer quand il a fait une bêtise. Car ça sert à ça, les amis, vous couvrir en cas de pépin.
Qu'est-ce qui a laissé sa tasse dégueulasse ici, là?
Hein?
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est Jérôme Lacroix.
Eh bien, bravo, Eva.
Qui pose la question, là?
C'est Grégoire Martinez,
le jeune Padawan. En plus, oui, pour aller vous expliquer avec lui.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui dit oui à l'info mais non à la sinistrose. À suivre notre page santé avec ce matin cette question. Le régime sans viande, quelles conséquences sur la santé? Le docteur Ichou nous répond. Et puis, jeudi les bons tuyaux, un livre audio qui va vous révolutionner vos trajets en métro, une web-série pour vos longues soirées d'hiver et l'avis de notre expert high-tech sur le nouvel assistant intelligent signé Orange. Il s'appelle Jingo. Ok Jingo, peux-tu nous dire pourquoi Grégoire Martinez, notre spécialiste high-tech, a été absent toute la semaine dernière?
Grégoire Martinez a dû s'absenter, car il a bouffé trop de moules à Bruxelles et il n'était pas habitué.
Hey, mais ça marche!
5h40, Mathieu Noël.
Ma chère Céline, nous faisons avec vous un point sur la météo. Encore des averses pour l'Ouest.
Oui, c'est une nouvelle perturbation qui arrose toute la façade atlantique dans la matinée. Ces pluies gagneront ensuite le Sud-Ouest, le Massif central, le Languedoc-Roussillon, la région PACA et la Corse. Pour les autres, ce sera nuages et éclaircies, mais avec ce matin encore pas mal de grisailles dans le Nord-Est et des brouillards localement givrants. Des petites gelées, on en a d'ailleurs souvent ce matin sur la moitié Nord, avec des températures froides qui vont de moins 3 à 5 degrés. 5 à 10 degrés, c'est pour la moitié Sud. Et puis cet après-midi, la moyenne ira de 8 à 14 pour la moitié sud et 2 à 6 degrés pour la moitié nord.
Merci Céline. Eva, quelle question à vous poser nos auditeurs?
On leur a demandé pour quel bonbon ils craquaient car le 13 décembre 1920 naissait la société Haribo. Et bien Gecko comme Olivier nous ont répondu, les Malabar avec leurs bulles et leurs tatouages qu'on faisait sur l'avant-bras, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et Aurélie nous dit, les petites bouteilles de coca acidulée, j'en pique toujours à mon fils et les rouleaux de réglisse évidemment, je ne peux pas résister.
On est visiblement Grégoire Martinez qui est déjà avec nous en studio, notre spécialiste high-tech a une réclamation. chiant sur les bonbons. Vous en voulez ?
Les crocodiles ?
Mais oui, mais attendez, ils ont répondu. Ils ont déjà normalement, les crocodiles, on m'a dit petit auditeur. Donc on enchaîne.
Oui, d'accord, maîtresse.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
L'heure de notre rendez-vous santé. Bonjour docteur Marcel Ichoux.
Bonjour Mathieu.
Nous parlons régime sans viande ce matin, car depuis une décennie, on voit s'accroître une tendance à l'adoption d'un régime végétarien, végétalien ou vegan. Alors, comment peut-on expliquer cette tendance ?
Écoutez, c'est le docteur Arnaud Cocol, qu'on reçoit souvent ici, qui est un nutritionniste, qui indique dans le site de Futura Science que cette tendance est liée à une conjonction de phénomènes. La première, c'est le regard que l'on porte sur les abattoirs, sur les scandales alimentaires qui ont jalonné justement cette décennie. Enfin, il y a énormément de circonstances qui font qu'on mange de moins en moins de viande. Et puis surtout, les alertes médicales qui nous disent « manger de viande, c'est risqué ». Ça augmente le risque de cancer, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Donc voilà la tendance.
Alors, est-ce qu'il y a des risques à adopter ce type d'alimentation ? C'est la question qui revient souvent.
Alors oui, il y a des risques. Pourquoi ? Parce que quand on mange moins de viande, on a des risques, et là vous allez rigoler, bien sûr, de carence en vitamines. Et là vous allez me dire, mais comment ?
Alors prenons des vitamines.
Alors justement, c'est tout le problème. S'il y a carence, il faut en prendre. S'il n'y a pas carence, ça ne sert à rien.
Mais on n'est pas obligé de prendre des pilules. On peut prendre des petits... Par exemple, dans le tofu, il y a aussi des protéines. Il y a aussi des... On peut prendre des produits alimentaires alternatifs.
Alors, les protéines et les nutriments qui sont contenus dans les végétaux n'ont pas la même qualité que ceux contenus dans la viande. Donc c'est toute la différence, ni en quantité, ni en qualité. Et on a pu observer que cette différence fait risquer plutôt un vieillissement cérébral prématuré. Et évidemment, il faut prendre très attention à cela, notamment chez l'enfant, parce que ce risque-là est évidemment préjudiciable.
Alors, on peut devenir végétarien sur le tard, mais dans l'enfance, c'est mieux de manger de la viande.
Alors, végétarien sur le tard, mais à condition de se supplémenter, et ça exige une surveillance extrêmement étroite.
Manger moins de viande, mais de meilleure qualité.
Vigilance accrue, comme le tartare. Merci docteur Ichoux, on se retrouve demain.
Europe 1.
Pathétique.
Il est 5h44, Mathieu Noël.
Elle était bonne, non ?
Elle était très
bonne.
Pathétique.
Vous écoutez Debout les copains, à suivre. Vous avez envie de kiffer la vibe, comme on disait en 2005, de chiller à la cool, comme on disait en 2012. Je dis les bons tuyaux, notre séquence culturelle est là pour ça. Au programme aujourd'hui, un moyen astucieux de combiner trajet quotidien et plaisir de lire, même en voiture. Une web-série qui va vous tenir chaud et l'avis de notre expert high-tech sur le nouvel assistant intelligent signé Orange qui débarque. Grégoire Martinez et Nicolas Caro se préparent, mais d'abord, un peu de musique. Tenez Nicolas, est-ce que vous reconnaissez ça ?
Benny B ?
Non, presque. Zaz, Kevendra sur Europe 1. Zaz, Kevendra sur Europe 1. Je préfère ne pas demander à Grégoire Martinez, notre spécialiste high-tech qui nous a rejoint, ce qu'il en pense, vu que jusqu'à présent, aucun artiste diffusé dans cette matinale n'a trouvé grâce à ses yeux. Dernière victime en date, Benabar et Carla Bruni. Mais d'abord, une chanson qui plaît beaucoup dans l'équipe. Hein. Carla Bruni et Benabar chantent « La musique est trop forte ».
Ça plaît à qui ?
À moi.
D'accord.
D'accord, que de mépris dans ce d'accord. Debout les copains continue dans un instant notre page culture. Jeudi les bons tuyaux, Grégoire Martinez nous dira notamment ce que vaut selon lui le nouvel assistant intelligent d'Orange.
Je flippe grave. Martinez est réputé pour être une sacrée langue de pute.
Oh là là.
Ça va pas.
Il est 5h48. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
L'assaillante de Strasbourg est toujours introuvable ce matin. Au total, 720 membres des forces de l'ordre sont à ses trousses. Le bilan s'élève toujours ce matin à 2 victimes, une troisième personne dans un état de mort cérébrale et plusieurs personnes hospitalisées dans un état grave. Dans ce contexte, les Gilets jaunes s'interrogent sur les suites à donner à leur mouvement. Se rassembler ou pas, samedi, les avis sont contrastés alors que l'exécutif appelle à ne pas manifester. Enfin, dans le reste de l'actualité, Theresa May résiste à l'affront des députés de son propre camp. La première ministre britannique a remporté un vote de défiance à l'initiative des parlementaires hostiles à l'accord sur le Brexit récemment conclu avec Bruxelles, un texte qu'elle envisage de renégocier avec l'Union européenne, qui pour l'instant s'y oppose.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 13 décembre. Reste à savoir sur quel cheval on mise cet après-midi. Et pour le savoir, j'appelle le plus élégant des spécialistes hippiques. Le plus raffiné des turfistes. Un chic qu'il cultive notamment à travers des slogans aussi imaginatifs que poétiques.
À Cabourg, je bourre.
Bonjour José Coves. Ou devrais-je dire Baudelaire?
Bonjour à tous. 17% sur les 1500 mètres de la piste en sable fibré de l'hippodrome de Chantilly. C'est la cinquième course support du Quintet Plus. Mes favoris. Il porte le nom du tube planétaire des Stones, Jumpin' Jack Flash. Le numéro 15 est prêt à faire son show au devant de la scène. On est prié de retenir en priorité le numéro 1, Crépuscule des Dieux, sur sa meilleure distance. Le 16, Crybaby. Cette marchande de sable doit revenir au premier rang. De même d'ailleurs que le 17, Scalaregia, dont la fraîcheur physique en cette fin de saison est à 5 Crépus. Quant au 12, Pastichop, il est d'une générosité exemplaire. Trois autres possibilités. Le 3, Rominou, avec Christophe Soumillon en tête dans la course à la cravache d'or. Le 10, Wiggle, toujours en forme en cette fin de saison. Et le 5, Zawinska, pour une cinquième place. Voici donc mon ticket pour cette cinquième course vers 13h47. D'abord, le 15, l'As, le 16, le 17 et le 12. Et l'on ajoute le 3, le 10 et le 5.
Dites-moi, José, vous avez eu Mick Jagger pour Jumpin' Jack Flash?
Bien sûr, je l'ai joint à Los Angeles. Mike, très gentiment, m'a dit que Jumpin' Jack Flash allait finir premier au hit parade pour la deuxième fois consécutive. Bien sûr que non, vous l'avez compris, mais on peut toujours rêver. J'aurais tellement voulu avoir cette bête de scène au téléphone.
Merci José, demain peut-être.
Et il est 5h50.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Eh oui, you can't always get what you want. Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici jeudi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Nicolas Carreau pour la littérature et pour les nouvelles technologies, celui qui, grisé par sa titularisation en CDI, on se nomme désormais le petit tyran.
Qui a laissé sa tasse dégueulasse ici, là?
Pardonnez-nous, sire, si la table n'est pas impeccable, un maraud aura dû oublier d'épousseter ses miettes, il sera dûment châtié. Le marquis Grégoire de Martinez qui, hélas, n'attache pas autant d'importance au contenu de ses chroniques qu'à la propreté de la surface de la table. Preuve hier où il a été assez facile de le prendre en défaut, c'est Mathieu Charrier, son chef, qui s'en est chargé.
Pourquoi Griezmann joue en manche longue?
On n'a pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse.
C'est lui qui le souhaite.
Ça, on se doutait qu'on lui imposait pas de jouer en manche longue.
Grégoire, ce matin, j'espère que vous êtes béton sur votre sujet. Le nouvel assistant intelligent d'Orange, vous aurez des réponses à nous apporter.
Je suis au taquet sur Jingo là, vraiment.
Au taquet sur Jingo là. Mais d'abord, je le vois qui s'impatiente.
Bon, j'ai un métier, moi, les enfants.
Ah oui, ça vient, Nicolas. Priorité à la littérature, surtout quand elle nous dispense de lire. Nicolas Carreau, le jeudi, c'est livre audio. La semaine prochaine sort le film de Rupert Everett consacré à Oscar Wilde. Vous avez donc décidé de nous faire écouter son roman, Le portrait de Dorian Gray.
Son unique roman d'ailleurs, publié en 1890. Nous sommes à Londres, au 19e siècle. Dorian Gray est un jeune homme extrêmement beau. Son ami Basil Hallward est fasciné par Dorian et peint un portrait de lui. Le portrait est aussi beau que le jeune dandy, plus beau même. Alors Dorian fait le vœu que le tableau vieillisse à sa place et que lui garde toujours ses traits de jeune homme, sans rides, sans marques du temps et sans les marques de ses propres vices, la méchanceté, la mesquinerie, l'hypocrisie.
Et ça marche.
Et ben c'est ça le problème, puisque du coup Dorian s'en donne à cœur joie dans le vice et le tableau effectivement se transforme petit à petit. Ici apparaît une grimace de cruauté, là une ride, etc. Le portrait aspire et intègre toutes ses dépravations. Écoutez à quoi ressemble Dorian au début du roman dans cet extrait lu par Denis Podalides.
Il était merveilleusement beau, avec ses lèvres écarlates finement dessinées, ses clairs yeux bleus, sa chevelure aux boucles dorées. Tout dans sa face attirait la confiance. On y trouvait la candeur de la jeunesse, jointe à la pureté ardente de l'adolescence. On sentait que le monde ne l'avait pas encore souillé.
C'est un roman sur la beauté d'abord, Nicolas.
Oui, et en ce qu'elle a d'éphémère, mais d'absolu aussi, de divin, et comment nos actes, nos lâchetés, notre orgueil nous transforment. Bon, c'est un chef-d'œuvre, immense succès. Juste avant le procès et la condamnation d'Oscar Wilde à 2 ans de travaux forcés pour homosexualité, c'est de ça dont il est question dans le film de Rupert Everett. La fin d'Oscar Wilde, ce génie qui finit sa vie dans la honte et l'opprobre, coupable d'être trop libre.
Merci beaucoup Nicolas Carreau pour cette suggestion lecture audio. On passe à vous Grégoire. Depuis quelques mois, les enceintes connectées et les enceintes intelligentes se multiplient. Et à partir de l'année prochaine, il faudra compter sur un nouvel outil français.
Eh bien oui, alors les assistants intelligents, déjà on rappelle peut-être rapidement ce que c'est. Oui. Ce sont, vous savez, ces logiciels qui sont soit dans votre smartphone, soit dans une enceinte connectée et à qui vous pouvez poser une question à la voix et qui vous répondent aussi avec leur voix. Alors aujourd'hui, il y a Google qui en propose un, Apple aussi, puis Amazon sont les trois principaux. Mais Orange, donc un français, l'opérateur français, a annoncé hier qu'il allait lancer son propre assistant intelligent made in France. Il s'appelle Jingo, ça s'écrit D-G-I NGO. Et il arrivera au printemps avec une enceinte qui sera vendue 49€ aux clients d'Orange, donc ce sera l'une des moins chères du marché.
Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ?
Bah alors, Orange oblige, elle peut évidemment commander votre Livebox, donc vous pourrez demander à Jingo de changer de chaîne ou de monter le volume de la télé. Et c'est un de ses gros points forts d'ailleurs, parce que les autres ne le font pas, ça. Ils ne peuvent pas commander votre télé, les autres assistants intelligents, enfin c'est plus compliqué. Et puis, comme toutes les enceintes connectées, comme tous les assistants intelligents, vous allez aussi pouvoir lui demander de vous faire écouter de la musique, des playlists, de commander les objets connectés de votre maison, par exemple, si vous avez des ampoules connectées, d'allumer ou d'éteindre la lumière. Mais la surprise, c'est que dans cette enceinte connectée qui sera vendue par Orange à partir du printemps, en plus de cet assistant intelligent français, Jingo, il y a un deuxième assistant qui s'est glissé dedans, celui d'Amazon, l'assistant Alexa. En fait, Orange a intégré les deux parce qu'ils avaient un peu peur.
C'est pour pas qu'ils s'ennuient entre eux.
Comme ça, c'est ça, ils peuvent se parler entre eux, exactement. Alexa, ils peuvent se rassurer, répondre aux questions. Quand l'un n'a pas la réponse, l'autre répond.
Non, ils peuvent s'engueuler aussi, peut-être.
Alors, j'ai pas testé, mais on pourra tester.
On fera le test en direct. À mon avis, ça a vraiment bordélique.
En gros, ils ont mis deux assistants parce que l'idée, c'était que Jingo n'était pas suffisamment puissant pour répondre à toutes les questions. Donc, avec Alexa, on peut aller plus loin.
D'accord. Et donc, c'est pas hyper performant
C'est pas encore.
C'est français, Eva. Sur le prix annoncé, 49 euros, je m'en rends pas compte, c'est cher, c'est pas cher. Non, alors par rapport à la concurrence.
C'est moins cher que la concurrence.
Voilà, on peut le dire, ça sera un peu low cost, quoi.
Non. On peut le dire.
Ah, on peut le dire. Voilà, moi, c'est ce que j'ai senti un petit peu par rapport aux autres enceintes connectées. Ouais. Là, ça sera une offre un peu low cost.
Vous pouvez me faire un café, Grégoire, s'il vous plaît ?
Pourquoi vous dites ça ?
C'est mon assistant.
Rien ne vaut l'assistant réel.
Mais alors, du coup, il faut dire OK Grégoire.
Oui. OK Grégoire.
OK Grégoire. OK Eva, à vous.
Changer le monde, ça tient qu'à nous. C'est pas moi qui le dis, c'est Alexa. Alexa, c'est un hacker qui vit isolé dans une cave ou dans une camionnette. Et régulièrement, il poste des vidéos sur tous les sujets qui sont là sous notre nez et que nous refusons de regarder en face. Alexa est sarcastique, un brin effrayant physiquement. Et sa sœur est souvent à ses côtés. Sujet du jour, le handicap.
T'imagines si on avait enfermé Albert Einstein dans un asile psychiatrique à vie parce qu'il avait du mal à s'exprimer ?
Ou Ray Charles et Stevie Wonder dans un monastère juste parce qu'ils étaient aveugles ?
Et balancer Stephen Hawking à la décharge avec sa maladie de Charcot ?
Parce que jusqu'à la fin de l'Antiquité, c'était vite réglé. Dès que ton handicap était visible, on te tuait à la naissance.
On appelait ça exposer le nourrisson.
C'était pour cacher qu'on te filait à bouffer ou bête sauvage.
Alors, dans la vraie vie, Alexa s'appelle Axel Latuada et avec Fabrice Debonny, ils sont à l'origine de cette chaîne YouTube Et tout le monde s'en fout, c'est le nom de la chaîne, qui compte plus de 450 000 abonnés. Du féminisme à l'écologie, en passant par la psychologie ou la notion de perfection, bien la chaîne brise les idées reçues, apporte un éclairage historique, comme vous venez de l'entendre, ou un angle pédagogique à tous ces sujets. Des vidéos très malines, très documentées, bien écrites et qui bénéficient par ailleurs d'une réalisation efficace. Et le succès de la chaîne est tel que... Elle se décline désormais en livre, c'est aux éditions First, ça s'appelle « Tout le monde s'en fout », 14,95€, c'est encore une idée pour Noël, ça plaît aux enfants, aux ados et aux plus âgés des internautes, c'est vraiment une des meilleures chaînes YouTube que
c'est
je
drôle
connais.
Et en plus on apprend des choses du coup.
Plein, tout le temps, il n'y a pas un génial. Truc qui est en dessous, de... il n'y a
on
pas
rappelle
une vidéo
le nom,
qui est en dessous.
Qu'est-ce qu'on tape sur Internet ? On est sur Google, on tape
vous
quoi ?
Vous allez sur YouTube et vous tapez « Et tout le monde s'en fout ».
Et tout le monde s'en fout, ouais. Et là on va voir apparaître cette chaîne YouTube.
Exactement.
C'est fabuleux Internet, ouais, c'est fabuleux d'avoir ça, ça fonctionne.
Moi,
merci beaucoup Eva Rock, merci à toute l'équipe de Bon Tuyau, même à Nicolas Caro. On se retrouve demain. Oui, le Marquis de Martinez veut ajouter quelque chose ?
Réserve-moi une table au restaurant italien pour 4 personnes pour 20h ce soir.
Oh, la préadolescence, c'est quelque chose, hein.
Europe 1.
Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Il est 5h58, Mathieu Noël.
L'heure de la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Encore de la pluie sur l'ouest du pays aujourd'hui.
Oui, c'est une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse qui s'étend ce matin de la Bretagne au sud-ouest avec du vent. Des rafales jusqu'à 70 km/h sur le Finistère. On en aura aussi du vent près des côtes de la Manche et sur les côtes méditerranéennes sous un ciel bien couvert. Ça va rester lumineux ce matin de la Normandie à la Franche-Comté et surtout le nord-est, hein, mais après dissipation de grisailles. Attention également au brouillard givrant, surtout dans le nord-est. Pour les autres, ce sera nuages et éclairci et il fait froid, moins 3 degrés à Besançon, à Bourges, moins 2 à Lyon, moins 1 à Mulhouse, à Orléans, 0 degrés à Lille, à Paris, à Caen, 2 à Rennes, 5 à Brest, un petit peu moins froid sur la moitié sud, avec 7 degrés à Bordeaux, 8 à Biarritz et 10 à Bastia.
Et cet après-midi, Céline ?
On va retrouver la perturbation pluvieuse de la pointe bretonne jusqu'au massif central avec de la neige des 800 mètres. Il pleuvra sur les côtes atlantiques, le sud-ouest, du Languedoc-Roussillon à la région PACA jusqu'en Corse. Pour les autres, ce sera partagé entre nuages éclaircis avec encore localement un petit peu de grisaille dans le nord-est et un peu de vent dans les terres. Les températures restent froides avec une moyenne de 2 à 6 degrés sur la moitié nord pour cet après-midi et le centre-est aussi où ça va rester frais, 8 à 14 pour le reste du pays.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.